au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Je le dirai jamais assez souvent. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que c'est quatre fois mieux qu'une seule fois. Bonjour, Mathieu, comment vas-tu?
Ça va très bien. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont meilleures en plus grand nombre.
Oui, oui, oui. Hein, comme on dit, un c'est bon, deux c'est mieux. Non, quoi. Hey, aujourd'hui, c'est la 198e journée de l'année. Il en reste 167 avant le bye-bye et 160 avant Noël. Alors, il faut passer à un cadeau à m'acheter, Mathieu, s'il te plaît.
D'accord. Pour le bye-bye, oui, sans problème.
Oui. Alors, aujourd'hui, l'éveil, des veilles d'orage violents là, au Québec, surtout en Ontario aussi, parce que la chaleur va tomber, mais avec ça, ben, il y a tout plein de plaques, de systèmes météorologiques qui vont se confronter et probablement créer des orages. On espère qu'ils ne seront pas aussi violents que ceux qu'on a vécu dimanche, mais bon, on ne peut pas prédire. Reste quand même qu'aujourd'hui, ça demeure chaud, notamment à Montréal. Le ressenti jusqu'à cet après-midi, ça peut aller jusqu'à 40 degrés. On est tanné hein, de ça. Là. Je pense que ça va nous faire du bien, un petit orage. Mais rappelez-vous que dans quelques mois, on va se plaindre qu'il fait froid. Alors voilà. Partout donc dans l'est du pays, là, c'est encore chaud. Dans l'ouest, c'est du beau temps, beaucoup moins humide. Toujours pas de pluie prévue en Manitoba où il y a des feux de forêt. Et ça reste beau en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, à l'émission, notre chroniqueur, c'est Yvan Deslauriers. Allô, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Oui, on parle de quoi, Yvan, avec toi aujourd'hui?
On parle de natation artistique. Mmh. Est-ce que tu sais c'est quoi de la natation artistique?
Déjà que je sais à peine nager, je n'ai pas trop idée de ce que c'est. Ben, je vois des compétitions avec des nageuses, mais là, c'est des nageurs, c'est ça?
Oui. Alors, en 2017, la FINA, la Fédération internationale de natation, a modifié le terme « nage synchronisée » mm-hmm. pour « natation artistique
ah, »
afin
voilà.
de mieux représenter la discipline selon Natation artistique Québec, l'institution qui réglemente le sport dans la province. Alors, je vais vous parler de l'introduction des hommes dans une activité qui est grandement féminine. Et Dieu sait si, normalement, on parle du contraire.
Bon. Et puis nous, on va aussi vous proposer une entrevue sur une pièce de théâtre qui s'appelle La Clôture, qui est présentée au Petit Théâtre du Nord. On reçoit Mathieu Quesnel, qui a écrit et qui fait la mise en scène de cette pièce. On va aussi parler du cinéma sous les étoiles, parce qu'il y a beaucoup de films à voir dans la grande région de Montréal. Je vais juste passer un petit peu rapidement l'éphéméride d'aujourd'hui. Vous savez que c'est en 1429 que Jeanne d'Arc et ses troupes emportent la bataille de Patay contre les Anglais. Une victoire décisive qui permettra à Charles VII de se faire couronner roi de France à Reims. Un événement qui renforce donc la légende de Jeanne d'Arc en tant que figure héroïque de l'histoire française. En Russie, en 1918, exécution de la famille impériale russe Nicolas II, dernier tsar de Russie, et sa famille sont exécutés par les bolcheviks. On met fin donc à la dynastie des Romanov. Aux États-Unis, ça, c'est en 1998. C'est quand même pas si longtemps que ça. Lancement de la version initiale de Google. Et mon Dieu, que ça a changé le monde depuis ce temps-là.
En quelle année?
1998. Hein, il me semble que ça fait pas si longtemps que ça.
Oui.
Ouais. Et puis, 1955, c'est l'ouverture officielle de Disneyland en Californie, parc à thème qui est devenu une des attractions touristiques les plus populaires aux États-Unis, accueillant des millions de visiteurs chaque année. Et puis, les naissances célèbres, 1935, Donald Sutherland, acteur canadien, connu pour ses rôles dans des films et des séries comme MASH, The Hunger Games, Orgueil et Préjugés. Et 1954, Angela Merkel, chancelière allemande, la première femme à occuper ce poste et qui a joué un rôle important dans la géopolitique en Europe. Aujourd'hui, et puis je peux vous parler aussi du décès de Walter Cronkite en 2009. C'est le journaliste états-unien, souvent décrit comme l'homme le plus de confiance dans ce pays, qui a été présentateur des nouvelles pour CBS News pendant des décennies, qui a couvert des événements majeurs comme l'assassinat de John F. Kennedy et l'alunissage de 1969. Et puis d'autres faits insolites. Tiens, on va parler d'aviation tout à coup. 17 juillet 1996, le vol 800 de la TWA explose en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique au large de Long Island, tuant les 230 personnes à bord. Un événement tragique qui reste l'un des pires accidents aériens de l'histoire des États-Unis et a donné lieu de toutes sortes de théories controversées sur les causes. Ah, mon Dieu, le complotisme était déjà à l'œuvre à cette époque-là. Et puis 2014, un autre histoire de vol, c'est le vol le 17 juillet, toujours le MH17 de Malaysia Airlines qui est abattu au-dessus de l'Ukraine par un missile sol-air, entraînant la mort de 298 personnes. Un événement qui a eu des répercussions internationales et qui a conduit à de graves tensions diplomatiques. On s'en va en musique.
Jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien.
Entendeur qui reprenait la chanson de Nino Ferrer, La Rua Madureira.
C'est une histoire ce matin qui nous est présentée par le Journal de Montréal. Eh bien, Julie Rainville et son conjoint Benoît Baudin ont tenté de traverser le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Pointe des Cascades et la Pointe du Buisson à Boisnois. Alors, ils marchaient sur des pierres, les deux, et puis Julie a perdu pied. Son conjoint Benoît Baudin a tenté de la sauver. En fait, il l'a sauvée, mais malheureusement, lui, il a été emporté par les eaux. Quel drame pour cette famille. C'est survenu donc ce week-end dans la région de Montréal. Et puis, parlant d'autres faits divers, mais quand même plus que faits divers, c'est assez hallucinant. Un glissement de terrain majeur. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ça, les images hier dans les médias. Eh bien, un important glissement de terrain a emporté plus de 2000 mètres carrés de terre agricole à Saint-Uribe dans Portneuf. scindant une route en deux au passage et menaçant une maison qui se retrouve au bord du cratère. Alors, on n'a jamais vu ça, selon le directeur général de la municipalité. En fait, la dernière fois qu'il y a eu quelque chose du genre, ça remonte à 1890. Je ne pense pas qu'il était au monde à ce moment-là, mais quand même. Comme plusieurs cours d'eau en Chaudière-Appalaches dans les derniers jours, la rivière Blanche est sortie de son lit après des pluies diluviennes. Oh oui, qu'on a eu de la pluie, hein? Alors, sauf que cette fois-ci, l'eau s'est frayée un chemin dans le sol argileux en emportant une grande partie. On parle de l'équivalent de deux terrains de football hein, qui se seraient effondrés. Heureusement, il n'y a personne, malgré que c'est impressionnant, personne n'a été blessé, personne n'a perdu la vue, personne manque à l'appel. Évidemment, il y a des gens qui ont été évacués pour s'assurer donc que leur maison, leur résidence, le terrain est toujours sécuritaire pour qu'ils puissent y retourner. Et puis, il y a toujours cette maison, j'imagine, qu'on va devoir soit démolir et reconstruire plus loin. On verra bien. Et pour le moment, ben, c'est sûr que la route est toujours bloquée. Québec recrute-t-il trop tard, ou recule-t-il trop tard, pardon, sur ses coupes en éducation? Après avoir été vivement critiqué en raison d'un manque à gagner estimé à plus d'un demi-milliard de dollars dans le réseau de l'éducation, le ministre Bernard Drainville fait volte-face en débloquant 540 millions de dollars pour soutenir les écoles de la province. Mais celles-ci pourront-elles s'adapter à ce revirement de situation à temps pour la prochaine saison rentrée scolaire? Québec a procédé dans les dernières semaines à un processus de révision des dépenses des centres de services scolaires, les CSS, et qu'a indiqué le ministre de l'Éducation, sur le réseau social X. Ceux-ci ont été consultés par Québec à la suite de l'annonce de leur budget préliminaire le mois dernier. Et puis, ben ça nous a permis, dit toujours Bernard Drainville, de consulter les organismes scolaires et d'être à l'écoute du terrain. Et on a entendu les préoccupations et les besoins. Aujourd'hui, on agit pour nos élèves. Alors, cette somme... Rappelons que cette somme ne devra servir... Donc, l'enveloppe est de 540 millions de dollars. Elle a été débloquée par Québec pour permettre aux écoles de la province de fournir des services directs aux élèves et cette somme ne devra pas servir à autre chose que cette fin, a-t-il dit. Les directions générales des centres de services scolaires ont été mises au fait des détails de ce réinvestissement auxquels ils devront s'adapter en procédant notamment à des embauches dans un laps de temps qui est limité avant la prochaine rentrée scolaire. Changement qui ne peut s'opérer aussi rapidement là, dans différents milieux, prévient la professeure du département de sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais, Mylène Rioux. Elle souligne, entre autres, que lorsque le ministère de l'Éducation a demandé en juin au CSS de réduire leurs dépenses de 570 millions de dollars pour la prochaine année afin de respecter le budget là, de l'éducation, bien, adopté en mars, plusieurs écoles ont procédé à des mises à pied par leur personnel de soutien et professionnel, des employés qu'il sera donc difficile de recruter de nouveau, puisqu'une partie d'entre eux ont sans doute trouvé un autre emploi depuis cette date, prévient-elle. Et puis, on craint donc que le renversement de des décisions, bien que bienvenue, arrive tard dans le processus administratif des CSS avant la rentrée. Alors, il y aura peut-être des incertitudes, ce que craignent les comités de parents et aussi bien, les directions hein, de la Fédération des CSS du Québec est bien consciente de l'ampleur de la tâche qui les attend. L'ampleur de ce défi logistique et humain qui attend les centres de services scolaires est importante, dit en entrevue au Devoir le président directeur général Dominique Robert. Des CSS avait, ces dernières semaines, coupé dans des projets scolaires et organisé des groupes d'élèves et procédé à des mises à pied, devant donc renverser certaines décisions difficiles qu'ils avaient prises en raison des restrictions budgétaires que Québec comptait initialement leur imposer. C'est un défi important, a noté M. Robert. Tout de même, il y a bon espoir qu'on va réussir à préserver les services directs et qu'on va réinvestir l'argent requis là où il le faut. Petite musique, tout petite, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va aller rejoindre Yvan Deslauriers. Salut, Yvan.
Bonjour, Denis.
Oui, on va aller dans la piscine, puis on va parler de nage artistique on disait nage synchronisée à l'époque, mais bon, on parle de nage artistique maintenant.
Oui, et un peu comme toi, c'est pas un environnement où moi, je suis à l'aise.
Oui, moi, je suis comme un caillou. Hein, quand on me met dans l'eau, je me retrouve dans le fond.
Oui, c'est ça. Pour moi, la nage artistique, c'est moi qui est impliqué, on ne verra pas grand-chose au-dessus de l'eau. Parce que je vais être dans le fond. Non. Mais
on met des caméras dans le fond, puis toi, on fera de l'art.
Oui, mais maintenant, avec la technologie, ça fait d'autres choses. Enfin, mais dans un article de Olivier Picard dans la presse d'hier, on parle de justement de natation artistique, autrefois natation synchronisée, nage synchronisée, dans un article qui s'intitule « Quand les codes ne tiennent plus ». Et on commence par parler en 2016, donc il y a 9 ans, Josué Caccione, j'espère que je prononce bien son nom, et tous les autres noms dans l'article d'ailleurs, fait le grand plongeon. Fasciné par la natation artistique, il fait ses débuts dans ce sport à l'âge de 8 ans. Puis là, il faut quand même, là, je fais un aparté, mais il faut quand même se mettre en tête que le petit gars, il a 8 ans, puis il se lance dans un sport qui, à ce moment-là, est presque entièrement féminin. Je ferme ma parenthèse, ça prend quand même un peu de cran pour faire ça. Ouais. À ce moment-là, il n'y a que 2 nageurs masculins mineurs à l'échelle de la province. Aujourd'hui, il entraîne 3 garçons au club R2P. Alors, là, je vois dans votre cerveau que ça veut dire R2P.
Ouais.
C'est tout simplement Rosemont Petite Patrie.
Ah.
R2P. Voilà.
Eh ben.
Et plusieurs autres garçons s'essaient à ce sport presque exclusivement féminin, comme Romain Charon de Beaconsfield. Pardon. En 2014, la Fédération internationale de natation a autorisé la participation des hommes en natation artistique. Donc, en 2014, ça fait 11 ans. Denis Gonzalez, Boniou, Ranho Toblin et Edouard Kim sont parmi les jeunes athlètes masculins qui se sont hissés jusqu'au championnat du monde où les épreuves de natation artistique débutent aujourd'hui à Singapour. Il a fallu 10 ans de plus, donc on partait de 2014, donc en 2024, il a fallu 10 ans de plus pour que les hommes soient admis en natation artistique aux Jeux olympiques. Ce n'est que depuis les Jeux de Paris, l'année dernière, en 2024, que chaque équipe de 8 personnes peut comprendre jusqu'à 2 hommes, a décrété le Comité international olympique. Au Québec, Josué Caccione est une figure de proue masculine du sport. Il a commencé une sorte de tendance. On voit beaucoup plus de jeunes garçons dans les équipes U10, c'est-à-dire moins de 10 ans, under 10, de natation artistique, dit sa partenaire de duo mix, Sacha Bensoussan. À la piscine de Rosemont-la-Petite-Patrie, Victoria, Sacha et Josué font des entraînements sous la supervision de leur entraîneuse. Stella Forlini impose le rythme sous-marin en percutant un cercle métallique sur une barre d'acier qui plonge dans l'eau. Alors, il faut s'imaginer que l'entraîneuse est assise sur le bord de l'eau. Puis là, une espèce d'outil, d'objet, qui est un cercle métallique avec une barre qui s'en va dans l'eau, puis elle cogne sur le cercle pour pouvoir donner un rythme que les gens vont pouvoir entendre dans la piscine. Alors, culbute et éclaboussure sont au rendez-vous. Josué confie que sa présence surprend positivement. Les remarques désobligeantes ne font pas du tout partie de son quotidien. Il dit « J'ai été surpris qu'il y ait beaucoup de papas qui viennent me voir pour me dire « C'est cool ce que tu fais », raconte-t-il au bord de la piscine Père Marquette. C'est l'homme avec qui je suis le plus en sécurité. On est meilleurs amis, dit Victoria Verdi, qui est une de ses partenaires en duo mixte technique. Là, ma connaissance du sport est, on atteint sa limite, là, le duo mixte technique, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Les stéréotypes de genre sont tenaces chez les juges, déplore Stella Forlini, qui est co-entraîneuse. Ceux-ci, les juges, sont parfois réfractaires face à l'approche du duo de Sacha et Josué, où c'est le jeune homme qui n'est pas le faire, où le jeune homme n'est pas le faire-valoir de Sacha, comme c'est généralement le cas dans les duos mixtes. Sacha Bensoussan nous dit « On nage moins comme un couple,
ça surprend les gens. Au bout du compte, on aborde ça comme un duo. On met autant de l'avant le garçon que la fille. Contrairement à ce qu'on voit dans les duos mixtes en général, c'est le jeune athlète masculin qui se fait propulser dans les airs par sa partenaire. C'est Josué qui est le voltigeur parce que, objectivement, les filles, que ce soit Victoria ou Sacha, sont plus fortes des jambes, nous dit la co-entraîneuse Stella Forini. Dans un autre coin de Montréal, il y a Romain Charron, qui a 13 ans, lui, qui est nageur artistique au club de Beaconsfield depuis 3 ans. Il étudie à l'École supérieure de ballet de Montréal en sport-études et a commencé la natation artistique par l'entremise de ses deux sœurs qui la pratiquent. Le soleil plombe et les enfants jouent dans le bassin. Romain, lui, perfectionne sa technique avec ses camarades. Le jeune adolescent dit admirer le talent de Caccione. Pour lui, la natation artistique, c'est comme de la danse dans l'eau. Il se sent à l'aise, dit-il, comme au ballet. L'hiver prochain, Romain espère concourir au niveau provincial. Quand tu dis que ton garçon fait du ballet, il y en a beaucoup qui disent « Moi, mon conjoint, il ne voudrait pas », lance Virginie Drogue, qui est mère de Romain. Les préjugés à l'endroit des garçons sont semblables en natation artistique. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours trouvé ça beau, dit-elle. Selon Mme Drogue, Victoria et Sacha, la discipline est beaucoup plus pratiquée par des hommes en Amérique latine. Malgré les efforts de Natation Artistique Québec, certaines compétitions ne sont pas encore accessibles aux hommes, indique Lilou Lenz, qui est co-entraîneuse à R2P. Au Jeux du Québec, par exemple, il n'y a pas de représentation masculine dans la synchro, ni en duo, ni en solo. La catégorie n'existe tout simplement pas. C'est un sport féminin. Les garçons ont une réticence à venir dans le sport, souligne Victoria Verdi. Même constat pour l'autre partenaire, qui est Sacha Bensoussan. Elle dit d'ailleurs, les garçons gardent une gêne parce qu'il y a un tabou. Il y a des portes, par contre, qui s'ouvrent maintenant. Toutefois, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les gars, souligne Josué Caccione. Comme les duos mixtes sont rares, ses partenaires et lui ont été invités au championnat panaméricain junior au Paraguay en 2025. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller compétitionner en Amérique du Sud pour différentes raisons techniques. Aux Jeux olympiques de Paris et aux championnats du monde de Doha en 2024, aucun homme ne représentait l'équipe canadienne. Les athlètes masculins sont aussi absents à Singapour. Le rideau s'ouvre sur les hommes en natation artistique. On voit de plus en plus que les stéréotypes sont brisés. Une fois que tu te rends au bout, ça vaut vraiment la peine. Pour les parents et pour les athlètes, conclut Josué Caccione. Donc, on découvre à travers cet article-là le début de quelque chose, le début de l'entrée des hommes en natation artistique qui se fait avec des difficultés, on essaie de briser des choses, mais on a vu ce genre de parcours-là bien, bien, bien souvent quand les femmes ont voulu parfois avec difficulté, mais souvent avec succès, aller vers des sports qui étaient étiquetés complètement masculins dans le passé.
Wow! Donc, ça change, hein?
Ça change. Tranquillement, ça change. Il faut juste pas oublier qu'il y a des succès à souligner, mais il faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
J'aimerais faire un petit parallèle, si tu me permets, parce que pendant longtemps, le patinage artistique, hein, c'était vu comme étant une compétition où les femmes étaient mises de l'avant, c'était pas vu comme étant un truc de gars, mais c'est devenu un truc de gars pas mal, hein?
Oui, oui, oui. Puis là, je trouve qu'il y a un bel équilibre maintenant. Hein? Oui. Il y a des catégories hommes, il y a des catégories mixtes, il y a les danses. Ce qu'il y a de particulier dans ce que je viens de lire, c'est que, imaginons, soit en danse ou en mix, en patinage artistique, que ce soit la femme qui propulse l'homme dans les airs plutôt que le contraire. Puis là, on aurait peut-être un œil un petit peu... on ne serait pas habitué à ça. C'est un peu ce qui est proposé dans l'article, selon la morphologie des gens. Alors, on est en train de regarder plus qui est celui ou celle des deux qui peut mieux faire la propulsion puis l'autre la voltige, et c'est pas nécessairement réservé à un sexe plutôt qu'à l'autre.
Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est une discussion qui est vraiment dans l'air aussi. Notamment à savoir est-ce que des personnes qui ont fait une transition pourront compétitionner dans la catégorie de genre à laquelle ils sont devenus ou appartiennent désormais ou à celle d'avant. C'est un gros débat, puis je pense qu'on n'aura pas le temps à quelques minutes d'en faire tous les détails, mais c'est quand même des situations importantes que vivent ces personnes-là. Mais merci
beaucoup. Vaut la peine que ça soit dit. Ça vaut la peine de donner de la lumière à ces situations-là.
Tout à fait, tout à fait.
Je voulais juste terminer, Denis Martin.
Oui.
Quand j'ai remplacé la semaine dernière, je parlais parfois du défi sportif sur le site du défi sportif Altergo, de 5 activités sportives accessibles à faire sur l'eau cet été. J'ai parlé de la voile adaptée et de la planche à pagaie adaptée. Aujourd'hui, je vais juste parler du ski nautique adapté. Mettons que dans mon cas, qu'il n'y a pas de... J'ai toutes mes membres, mais je pense que ça vaudrait la peine que je fasse du ski nautique adapté dans mon cas. Mais enfin, c'est des planches adaptées et des activités organisées par la Fondation des sports adaptés avec des équipes de bénévoles qui permettent aux personnes à mobilité réduite de faire l'expérience des joies du ski nautique. Alors, la Fondation des sports adaptés se déplace à différents cours d'eau au Québec pour offrir des activités de ski nautique adaptées dans ces programmes, les programmes qui s'appellent Initiation au sport nautique adapté et Élite ski nautique. Alors ça, c'est dans... on peut avoir ces informations-là sur le site du défi sportif Altergo.
Merci beaucoup, Yvan Delaurier. À très bientôt.
Au revoir.
Nous, après la pause, on va parler de cinéma en plein air. On va aussi parler un peu plus tard de la pièce de théâtre La Clôture. Puis je vous rappelle qu'il fait encore chaud, mais préparez-vous les parapluies parce qu'il va pleuvoir, surtout dans les régions là, du sud du Québec. Les gros orages qui s'en viennent.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, pourquoi j'ai vos regards? Les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Thank you. the stars are shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. For la do la do do. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, pourquoi je vous regarde?
Étoiles, une chanson de Mélodie Gardot.
Ben, parlant d'étoiles, on peut voir des films sur les étoiles, Mathieu. Oui, oui, sérieusement, il y a un festival de cinéma sur les étoiles qui revient encore cette année, 16e édition. On parle surtout là, de films documentaires qui sont diffusés ici, là, dans la grande à Montréal surtout, dans différents sites. Et pour en discuter, on va recevoir le responsable de la programmation, Hubert Sabineau-Brunette. Bienvenue à l'émission.
Bien, merci de l'invitation.
C'est un retour. On se voit chaque année. Exactement. Parce que j'anime l'été, puis c'est toujours l'été que se passe. Oui, c'est un plaisir. Rappelons un peu le concept de ce festival.
Ouais, ben c'est vraiment d'amener le documentaire dans les parcs de Montréal. Donc, c'est vraiment notre mission. L'été, les gens sont dans les parcs, occupent les parcs pour différentes raisons, pour sociabiliser, pour avoir des relations, pour s'amuser, pour les loisirs. Mais on trouve que c'est intéressant d'amener justement le cinéma documentaire avec une teneur sociale et politique dans ces lieux-là pour occuper l'espace, pour amener de la culture différemment aux gens. C'est gratuit, donc les gens, tout le monde est bienvenu, tout le monde a accepté dans le processus. Puis, donc, c'est projection de films, puis discussion après les films avec soit les cinéastes ou avec des invités, des spécialistes des sujets abordés. Donc, c'est vraiment de créer un lieu où les gens peuvent dialoguer
ensemble.
C'est
vraiment
ensemble.
Propice. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. J'ai produit, travaillé sur un documentaire qui était sur les 30 ans du village à Montréal et on l'a diffusé au Parc de l'Espoir. Okay. Qui est en plein centre du village. Il devait y avoir une centaine de personnes qui se sont présentées ce soir-là et la discussion, c'était génial. Alors vraiment, parce que les gens sont on a le goût de jaser, c'est pas très formel. Oui, c'est ça qui aide beaucoup. Alors, cette année, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est déjà commencé, hein. Ça a commencé il y a quelques semaines déjà, fin juin.
On est à la troisième semaine à peu près.
D'accord. Là, il y a des documentaires vraiment intéressants. Puis qui sont des documentaires qui sont autant du Québec que d'ailleurs.
Exact.
Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit tour de ce qui reste à voir?
Ben oui, tout à fait. Ben cette semaine, on est dans la semaine de l'environnement.
Oui.
Donc vraiment.
Vous faites ça chaque année, hein? Des documentaires sur l'environnement, ouais.
Oui, il y en a partout dans la saison, mais on essaie de faire une semaine qui est dédiée à ça, justement pour essayer de, à travers l'angle de l'environnement, montrer que ça touche plusieurs enjeux, ça touche plusieurs sujets. Donc c'est pas seulement les changements climatiques, c'est pas seulement la pollution, mais c'est aussi l'agriculture, c'est ce qu'on mange, ça touche des sujets coloniaux, ça touche des sujets féministes aussi. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne façon que sur les 5 jours, on a cette incursion à travers l'estime environnemental. Ce soir, si la météo le permet, on est encore en train d'hésiter qu'est-ce qu'on va faire.
Mais on prévoit des gros orages, mais peut-être qu'il est rendu à 20h45. À 20h45, c'est parce qu'on attend qu'il fasse noir. Hein,
exact,
c'est ça. Ouais.
Tout à fait.
Ouais.
Pour voir les étoiles, comme vous disiez tout à l'heure, des fois on ne les voit pas. Mais donc ce soir, Plastic People, qui est un film super intéressant sur l'impact des microplastiques, comment ils sont rendus partout dans l'environnement, mais aussi dans nos propres corps. On finit par en ingérer de différentes façons. Donc, c'est vraiment assez alarmant comme constat, mais c'est un film super, super intéressant qui nous pousse aussi à changer nos façons de consommer puis de vivre. Demain, on a la chance d'avoir un film, Le goût des choses, qui est un film suisse. Puis avec le partenariat avec le consulat suisse, ben, le cinéaste est présent à Montréal pendant plusieurs jours. Donc, il va faire aussi une tournée de projection dans différents lieux. Donc, c'est un film sur la permaculture. C'est deux jeunes paysans qui ont parti un projet il y a quelques années, qui n'étaient pas du milieu agricole, qui essaient de développer leur projet, aussi de vendre directement aux clients. Donc, avec eux dans leur processus d'expansion, de pérennité. Donc, c'est pas évident comme travail. Puis, bon, on les voit sur leur terre qui travaillent jour et nuit, puis leur relation avec les gens. Puis, en même temps, il y a de la construction dans leur rue, fait qu'il y a aussi des enjeux qui sont autres que juste sur les enjeux agricoles.
Il y a d'autres choses, moi, que j'ai vues. Dans ma liste de ce que j'ai retenu, je sais que vous avez présenté Les Perdants, un magnifique documentaire que j'ai vu. Ceux qui l'ont manqué, dès que c'est représenté quelque part, allez voir ça. C'est vraiment une critique sociale de notre système électoral. C'est surprenant. À partir de je ne vais pas trop vendre la mèche, je pensais de candidats qui avaient comme zéro chance d'être élus, ouais. Mais avec peut-être des propositions un peu loufoques, mais finalement, tu te rends compte que ces gens avaient des choses à dire. Et l'autre documentaire, je pense qu'il vous reste une autre présentation, c'est Maurice Richard.
Ouais. Ouais. Il nous reste une présentation qui est à Cowansville, pour les gens qui écoutent de la région ou qui ont envie d'aller là. Donc, un super documentaire qui a été tourné sur plusieurs années, je pense une trentaine d'années, par le directeur photo.
C'est fabuleux. C'est fabuleux.
C'est magnifique. Puis, ouais. Puis Serge Giguère, qui est un cinéaste qu'on adore, qui a un peu hérité de ces bobines-là quand son ami cinéaste est décédé. Donc, le film parle de la relation entre les deux artistes, mais montre aussi Maurice Richard dans ses activités quotidiennes, surtout auprès de jeunes en milieu défavorisé. Donc, on voit vraiment un Maurice Richard assez humain, assez vulnérable, qui sert de modèle à des jeunes, qui, en tout cas, c'est vraiment très beau.
Très touchant.
Partie de pêche avec Maurice Richard, je pense que c'est le rêve de chaque personne. Là, donc.
Si tu me permets, parce que moi, j'ai des choses que j'ai retenues. La chronique d'une crise aussi de Simon Larochelle, ça aussi, c'est un film à voir, parce que je l'ai vu, alors voilà.
Tout à fait. Ben oui, on a une espèce de petit cycle de trois films sur justement qui abordent des enjeux de la crise du logement. Donc, la chronique d'une crise, ben, c'est un couple qui va avoir un enfant, mais qui reçoivent la lettre comme quoi ils vont être évincés de leur logement. Donc, c'est un peu leur combat pour essayer de rester dans leur lieu. Puis, ça nous donne vraiment beaucoup d'outils en tant que locataire ou locatrice pour comment réagir quand ça arrive. Sa conjointe est avocate, donc ils ont quand même vraiment une vraie réflexion sur cet enjeu-là. Qu'on les suit pendant plusieurs années, une espèce de journal intime de leur quotidien, dans leur combat pour rester dans ce lieu-là.
Et ça, c'est le 31 juillet à 20h45. Puis je vais juste te parler de mes coups de cœur parce que je connais les films La bataille de Saint-Léonard. Ça aussi, c'est à voir.
C'est un très, très chouette film. Le film est présenté au Théâtre de Verdure. Donc cette année, c'est la première fois qu'on va au Théâtre de Verdure, fraîchement rénové depuis 2-3 ans. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment des qualités exceptionnelles de projection. L'écran est immense, le son est super bon, tout le monde voit très, très bien, puis la capacité d'accueil est vraiment très grande. Fait que oui, ce film-là a abondamment fonctionné. C'est un des rares documentaires qui fonctionne autant, malheureusement, mais c'est le fun de voir que des films comme ça, puis le cinéaste va être présent à la projection.
C'est toujours, à chaque fois, c'est ce que je trouve génial dans votre approche, c'est qu'il y a souvent le cinéaste ou le réalisateur qui est sur place. Et ça aide aussi. Souvent, il y a des échanges qui nourrissent des deux côtés. Hein, c'est toujours ça.
Tout à fait.
Je vous laisse aller avec d'autres suggestions.
Ben sinon, encore pas loin ici, Dahomey, un super film de Mathilde Diop qui questionne le rapport colonial à l'art. Donc, c'est des œuvres qui étaient à Paris, dans un musée. Puis il y a un petit travail de rétrocession de certaines des œuvres au Bénin. Donc, il y a tout ce rapport-là de comment les États coloniaux, comment la France, mais aussi comment le Canada le fait avec plusieurs nations autochtones, de s'approprier des œuvres, les mettre dans ses musées. Puis là, il y a comme une réflexion sur comment on peut redonner ces œuvres-là aux gens qui l'ont fait. Puis qu'est-ce que ces gens-là ont envie de faire avec ça? Donc, c'est pas nécessairement le même rapport à l'art. Ça pose beaucoup de questions. Donc, un film super intéressant. Puis, il y a un aspect aussi un peu fictionnel. Donc, il y a comme une accroche aussi qui peut-être aide aussi certaines personnes à rentrer. Fait que le documentaire est assez large. Puis, ben, la semaine prochaine, c'est la semaine du court-métrage. Donc, c'est un format qui est très peu diffusé, le court-métrage documentaire.
Fait qu'on... Puis vous faites même une compétition, je comprends bien. Hein?
Ouais. Tout à fait. Fait qu'on a 24 courts-métrages qui vont être présentés la semaine prochaine dans 4 programmes. Puis je pense que c'est vraiment un chouette lieu. Puis avec plusieurs partenaires, bien, on réussit à avoir des prix à donner. Puis c'est au-dessus de 25 000 $ en prix. Donc après ça aussi, c'est souvent des jeunes cinéastes qui font du court-métrage. Donc ça les aide à faire leur prochain film, avoir une carrière.
Ou à payer celui qui vient de faire.
ou à payer d'autres choses. Des fois, c'est en service, donc c'est de la location d'équipement. On ne peut pas payer le loyer avec l'équipement. Mais puis c'est intéressant parce que ça fait quand même 9 ans qu'on fait ça. Puis des cinéastes qui sont passés avec les courts-métrages, puis qui reviennent, sont rendus à 2 longs-métrages qui ont été présentés à Cinéma Sous Étoiles. Fait que ça permet de créer aussi une espèce d'écosystème communauté autour de Cinéma Sous Étoiles.
Et là, vous remettez donc 4 prix, c'est ça?
6 prix.
6 prix?
6 prix, oui.
OK. Et qui sont les membres de ce jury qui vont être appelés à décider? C'est des gens connus, j'imagine, hein?
On essaie d'avoir une variété cinéaste, intellectuelle, militante. Mm-hmm. Donc, on a une cinéaste, Mathilde Capone, qui avait fait le film Éviction l'année dernière. Oui. Donc, vraiment un très, très chouette film. Dali Giroux.
Que je connais très bien, oui.
Qui est superbe. Puis, on a aussi Yvon Déranger. Qui est co-auteur d'un livre sur le cerveau avec Bruno Dubuc, donc quelqu'un qui est très impliqué, qui a fait beaucoup de films dans le passé. Donc, un beau jury qu'on a.
Un beau jury. Rappelons un peu l'idée, c'est que, bon, là, c'est sûr qu'il faut vérifier. Si le film aura lieu, évidemment, avec le temps et tout ça. Vous avez un site web où les gens peuvent aller chercher l'info?
Tout à fait. Sur le site web, toutes les projections sont là, les jours, les heures, les parcs. Quand il y a des films qui sont annulés à cause de la pluie, on met à jour le site web aussi.
D'accord.
Dans la journée, si la météo est incertaine comme aujourd'hui, ben, si c'est évident qu'il pleut, dès le matin, on annonce que la projection est annulée. On essaie de ne pas faire attendre. Mais on se donne jusqu'à 5 heures parce que des fois, c'est très humide. On ne sait pas si les nuages vont passer à Longueuil, à Laval ou à Montréal. Fait que à 5 heures, on regarde les écrans radars, puis on prend la décision. Si c'est annulé, on le met sur les réseaux sociaux.
Un peu comme tous les autres festivals, hein, je pense à Juste pour rire, qui revient cette année en grande et qui peut-être va devoir, sa première grande soirée, va devoir gérer la pluie, hein, même chose. Hein. Oui. Et sinon, quand on se rend là, on apporte sa chaise, une couverture s'il fait froid.
Soit les gens s'assoient dans la pelouse, mais une petite chaise, ça fait pas de tort.
Ouais.
Un petit peu de soit de l'eau, une petite bière, ça fait pas de tort non plus, si ça vient avec une petite sandwich pour respecter la loi. Mais souvent, les gens arrivent avant, ils font un petit souper entre amis, regardent le film, puis continuent avec la discussion.
C'est entièrement gratuit.
Tout à fait.
Comment on fait ça? Parce qu'on le sait, là, tous les organismes culturels se battent là, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, le financement. Comment vous y arrivez?
C'est pas nécessairement évident. On a quand même des partenaires financiers, Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts de lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, la Ville de Montréal nous aide, les arrondissements aussi. On a aussi une campagne de dons. Donc, pour les gens qui sont plus en moyens, qui sont intéressés à contribuer, sur le site Internet, on prend des dons. Puis maintenant, avec campagne de parrainage fiscal du CAM, bien, les gens qui donnent 25 $ et plus ont un reçu d'impôt, un reçu pour les impôts. Donc, c'est peut-être un petit peu plus intéressant à ce niveau-là. Mais sinon, c'est sûr que le financement, c'est un combat de tous les instants pour survivre. Tout coûte plus cher, mais on réussit à.
Mais on lâche pas, vous êtes rendu à la 16e édition, puis on voit encore que la passion est toujours là.
Tout à fait.
Fait que c'est important. Donc, je rappelle que ça s'appelle le Cinéma sous les étoiles. Ce sont des documentaires qu'on projette dans plusieurs arrondissements de Montréal et même dans la région de Montréal, puisqu'on va jusqu'à Cowansville, comme on a dit. Des documentaires qui viennent du Québec et d'ailleurs, et des compétitions et tout ça. Et pour plus d'informations, on va sur le site web. Je n'ai pas le site web devant moi, mais je pense que si on fait une recherche sur son moteur de recherche, Cinéma sous les étoiles, on va vous trouver assez rapidement.
Parfait, je pense que c'est .org.
.org. Ben, un gros merci à Hubert Sabineau-Brunet, responsable de programmation du Cinéma sous les étoiles.
Merci pour l'invitation.
Merci. Salut.
Miel de montagne et sa chanson « Tomber sur toi ».
Dans la presse ce matin, des centaines de foyers non conformes. Alors, malgré l'entrée en vigueur mardi d'une nouvelle réglementation québécoise, près de 55 % des résidences pour aînés qui ont de la clientèle qu'on dit de catégorie 3, c'est-à-dire des aînés semi-autonomes, qui ont besoin d'accompagnement médical, n'ont toujours pas de système de sécurité aux portes, selon des données analysées par le regroupement québécois donc de ces résidences. C'est plus de la moitié, donc, de ces résidences. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait une réglementation qui est entrée en vigueur au moment précis où la police, rappelez-vous, a identifié l'identité, donc a révélé l'identité de Sylvie Saint-Denis, sexagénaire, qui était atteinte d'Alzheimer, qui avait fugué sa résidence de Terrebonne, et on l'a retrouvée à la mi-juin dans un boisé. Elle était morte. Alors, c'est 55 % des RPA. Ça veut dire à peu près 587 résidences sur 1060 qui n'ont toujours pas installé là, ces systèmes pour s'assurer là, que les personnes ne sortent pas ou du moins savoir si quelqu'un ouvre la porte. Et parce que souvent, ça peut arriver des gens qui sont dans une situation ou dans un moment où ils perdent un peu le nord et puis s'en vont et puis se retrouvent dans une situation délicate. Alors, le nombre de cas d'errance là, évolue fréquemment et rapidement dans une résidence, c'est ce qu'on nous explique. Ça peut varier d'un mois à l'autre. Et finalement, bien, quand on trouve que des personnes ont des problèmes d'errance, bien, on va les relocaliser s'il le faut, parce qu'elles ne peuvent pas toujours rester en résidence pour aînés. Techniquement, donc, ces RPA n'ont pas une vocation d'accueillir une clientèle à risque d'errance, car elles constituent un domicile et non pas un milieu de soins de santé. Alors, on fait tout en même temps pour s'assurer là, qu'il y a des places, mais quand il n'y en a pas, il faut que les personnes restent pendant un bout de temps à RPA, donc s'assurer que les gens ne puissent pas se retrouver dans cette situation-là. Et je rappelle donc que donc mercredi, la police a identifié Mme Saint-Denis. Elle était logée au pavillon des Mille-Îles, une RPA composée de deux ailes sécurisées pourtant. De toute évidence, cette résidence n'était pas munie d'un système de sécurité suffisant pour les personnes atteintes d'Alzheimer. On accueille donc des gens dans des lieux qui ne sont pas adaptés, dénonce Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades.
C'est pas la première fois qu'un aîné ou une personne âgée hébergée en résidence fugue et connaît un destin funeste. On se rappelle, en décembre 2022, une dame d'Actonville avait fugué de sa résidence tôt dans la matinée et avait été retrouvée sans vie dans une rivière trois jours plus tard. Ses proches ont affirmé que celle-ci fuguait de manière cyclique, selon un rapport du coroner obtenu par la presse. Et puis en décembre 2020, une femme âgée de 94 ans de Rivière-du-Loup est morte d'hypothermie après avoir fugué de sa résidence pendant la nuit. Le rapport du coroner indique que la dame souffrait de problèmes cognitifs et que toutes les portes de la résidence étaient verrouillées à l'aide d'un code qu'à peu près tout le monde connaissait, incluant de toute évidence Mme X, mais sauf que quand on est dans une situation de détresse, parfois on ne se rappelle pas du code.
Ma chérie, t'es trop séduisante. T'es tellement chouchou. J'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. J'ferais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé.
J'peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'es tellement chouchou. J'peux pas t'effacer.
T'es la plus belle des étoiles parmi les autres. Je vois que toi. Tu te sens seul, dis-moi. Il me reste une auprès de moi, le projecteur sur toi, c'est faux comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. Je sens que tu caches quelque chose, c'est bon, me mens pas. T'es plus du tout comme avant, je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais que parfois je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des secondes, je te ferai l'amour pendant des heures. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois quand je reste seul direct. Clic-clic, pam-pam-pam. J'braque ton petit cœur, ma chérie. T'es trop séduisante. T'es tellement chouchou. J'sais pas ce qui s'est passé. J'repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. J'fais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé.
Ça fait clic, clic-clic, pam-pam-pam. J'braque ton petit cœur, ma chérie. T'es trop séduisante. Et ça fait clic.
Jans et sa chanson Clic Clic Pam Pam.
La minute Trump aujourd'hui, ça te tente, Mathieu? Je serai pas très long. Alors, il hausse le ton face aux républicains stupides. Ça, c'est son expression, pas la mienne. Donald Trump est passé à l'offensive mercredi en s'en prenant aux idiots de républicains qui remettent en cause la gestion par son gouvernement du dossier Epstein, du nom de ce financier états-unien, avant d'être jugé pour exploitation sexuelle de mineurs. Le président Trump a haussé le ton après plusieurs jours d'une polémique qui gonfle, née d'un récent rapport de son administration sur l'affaire Epstein. Une partie de la base partisane lui reproche de manquer de transparence. Alors, je vais vous citer dans notre chambre où j'ai le temps. Tout ça est une vaste fumisterie, c'est orchestré par les démocrates et quelques républicains stupides et idiots tombent dans le panneau et font le jeu des démocrates. A-t-il attaqué quand il a été interrogé sur l'affaire Epstein dans le bureau ovale où il recevait hier donc le prince héritier du Bahreïn? Donald Trump fait face à une sérieuse division, la plus sérieuse dans son socle de fidèles partisans depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, sur fond de soupçons que son administration couvre des éléments du dossier de Jeffrey Epstein pour protéger riches et de puissantes personnalités. On se rappelle que la mort de ce riche entrepreneur dans sa cellule, c'est un suicide. Bien, on a toutes sortes de théories du complot que le président Donald Trump a alimenté pendant sa campagne. Ça vient lui remordre les doigts aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce qu'il y a. La minute Trump pour aujourd'hui. Après la pause, on va parler de clôture. Tiens, 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 clôture, clôture. Ouais, ça peut être intéressant. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pliée. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines qui sèchent leur dentelle au vent sur les balcons. C'est un peu toi qui danse quand danse la mousseline invité au grand bal de tes slips en coton. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge. Plus de lèche, vitrine assez cache, poitrine que de sécher. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
Comédie sur ces frontières physiques et émotionnelles qui séparent ou rapprochent ceux qu'on appelle nos voisins. Dans une banlieue typiquement québécoise, deux couples de cinquantenaires vivent paisiblement côte à côte, sans vraiment se parler jusqu'au jour où, sans prévenir, l'un d'eux rase la haie qui les sépare. Oh là là, voici comment commence la pièce La clôture, un texte du comédien Mathieu Quesnel qui est présenté jusqu'au 23 août au Théâtre du Petit Nord. On reçoit Mathieu Quesnel au téléphone. Allô Mathieu!
Bonjour.
Alors, les chicanes de voisins, je me demande qu'est-ce qui t'a inspiré ce texte-là, un fait vécu?
Non, parce que je m'entends heureusement très bien avec mes voisins, mais il y a une couple d'années, j'avais commencé à noter des idées pour un scénario de chicanes de voisins quand un de mes voisins a décidé de changer sa clôture qui sépare nos deux terrains, puis c'est une clôture qui est assez haute. Fait que... À partir du moment qu'il l'a comme détruite pour en construire une nouvelle, on a eu, tu sais, il y a pas eu de séparation entre nos deux terrains pendant presque deux semaines, le temps qu'ils reconstruisent l'autre. Puis là, tout à coup, tu sais, on se voyait tous les soirs, puis c'était c'était la canicule, faisait chaud, fait qu'on était souvent dans notre cour le soir pour se baigner, tout ça, fait qu'on se voyait vivre un peu ce qui était jamais arrivé avant. Puis heureusement, c'est bien entendu, sauf que tout à coup, ce scénario-là de voisins qui se connaissent pas, parce qu'il y a comme un mur qui les sépare, puis tout à coup, ils se découvrent, puis ils apprennent à se connaître, ben je trouvais que c'était une belle situation, un peu malaisante, puis moi, je l'ai utilisé justement pour dériver vers une chicane de voisins qui finit en cours, mais qui commence par une amitié, un peu, ils se connaissent pas, et ça fait 25 ans qu'ils habitent dans la même place, il y a une grosse haie qui les sépare, c'est comme des voisins d'en arrière, là, dans l'histoire, fait que, puis il y en a un qui coupe sa haie, puis, il se découvre, puis ça fait 25 ans qu'ils habitent là, mais ils se sont parlé une fois à cause qu'il y a un enfant qui avait lancé un ballon de l'autre part, c'est tout, sinon ils ne se connaissent pas. Puis, c'est ça, je trouvais ça intéressant de faire cette pièce autour de deux couples qui sont proches dans la vie parce qu'ils sont voisins, mais qui finalement, ils sont très loin aussi par leur personnalité, parce qu'il y en a deux qui sont plus motards un peu, puis les deux autres sont plus végétariens, intello de région un peu, si je peux dire.
Faut toujours rendre c'est un peu tordu, mais c'est, en fait, la réalité pourrait être ça, hein, c'est carrément, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas entre voisins.
Non, c'est ça, puis il y a un personnage qui le dit dans la pièce, il dit, c'est quoi des voisins, au fond, c'est du monde qui ont acheté des maisons une à côté de l'autre parce qu'ils ont trouvé un bon deal, mais ils partagent souvent pas les mêmes goûts, puis ils ont pas les mêmes intérêts très souvent, fait que ça peut causer des conflits. Puis là, on l'utilise à des fins comiques. Là. Ils prennent une mauvaise décision, ils décident de pas remettre de clôture. Ça s'appelle la clôture, mais en fait, ils reposeront jamais de clôture dans l'histoire. C'est ça qui est... Parce qu'ils commencent à être amis, puis ils font comme « Hey, ça a grandi le terrain », puis on dit qu'on voit l'horizon pour la première fois. Hein. Puis là, finalement, ils vont décider de s'acheter une piscine ensemble et de la splitter, de splitter le bill.
Oh, wow!
Parce qu'il y avait pas d'argent chacun de leur côté pour acheter une piscine. Fait que là, et à partir de... Le conflit commence là parce qu'ils s'entendront pas sur la gestion de la piscine, puis finalement... Il y a même un des deux couples qui saute la clôture. Fait que, non, c'est très drôle.
Écoute, moi, je peux te dire que j'ai géré pendant quelques années ma copropriété. Disons que des chicanes de voisins, moi, j'en ai eu mon voyage.
Ben oui, c'est vrai. C'est ça, c'est que dans la vraie vie, en fait, c'est pas drôle une chicane de voisins, tu sais, parce que. C'est ça que je voulais exploiter aussi au niveau du scénario, c'est que c'est des gens qui se connaissent pas.
Ouais.
Souvent, ça crée des conflits, tu prends des choses trop personnelles, puis là, pompe tout seul dans ta maison, puis là, tu t'imagines aller chialer après et déverser.
Ça serait peut-être une pièce à présenter à tout le monde, puis qu'on puisse prendre un certain recul devant ces disputes-là. Donc, ça se passe en banlieue, j'ai bien compris.
Oui. Une banlieue qui pourrait représenter n'importe quelle banlieue, mais le théâtre est à Boisbriand, fait que je pense que les gens de la région de Boisbriand se reconnaissent beaucoup dans les personnages.
C'est bon. Ben justement, parlons des personnages. Qui sont-ils?
C'est deux couples de cinquantenaires qui ont chacun un des couples a des jumeaux, puis l'autre a des jumelles. Puis chacun a son tempérament. Écoute, il y en a le couple de motard, le gars qui s'appelle Denis, lui, il tripe sur Cuba, puis il essaie d'apprendre l'espagnol, mais il est vraiment fatigant avec ça, tu sais, fait que il essaie de nous instruire au niveau de l'espagnol, mais finalement on comprend qu'il sait juste six mots de base, là, tu sais, comme cerveza, gracias, hola señorita. Mais lui, il dit qu'il parle l'espagnol. Fait que chaque personnage a comme son petit toc comme ça. L'autre personnage, Patrick, qui est l'homme du couple végétarien intello, lui, il déteste les écureuils, puis il leur fait peur. Fait qu'il lâche des cris des fois dans la pièce parce qu'il fait peur. C'est de faire péter une crise cardiaque aux écureuils qui mangent son jardin. C'est ça. Puis les deux femmes, Isabelle, qui est la blonde de Patrick, elle est un peu nounoun. En fait, elle est très, très naïve. Elle propose de reposer une clôture, mais très colorée. Alors qu'une clôture, il ne faut pas que ça attire l'attention. Elle, c'est comme la jovialiste. Puis finalement, il y a Solange, la femme de Denis, le couple de motards. Elle, c'est une femme hyper bête, c'est une surveillante dans des écoles. C'est comme un peu, elle a une attitude très autoritaire, très cassante, fait que c'est comme la casseuse de party.
Bon. Et tout ça, ces personnages-là sont campés par pas n'importe qui. T'as quand même une belle brochette de comédiens, comédiennes.
Oui, ben c'est les quatre fondateurs du Petit Théâtre du Nord à Boisbriand, c'est-à-dire Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Mélanie Saint-Laurent et Sébastien Gauthier, qui sont connus dans cette région-là quand même, parce que Sébastien, en plus, et Luc ont enseigné à l'Option Théâtre Sainte-Thérèse. Ça fait plusieurs années qu'ils font du théâtre dans cette région-là, puis il y a un centre de création. Ça ressemble au Théâtre La Licorne, en fait, c'est le même architecte qui a fait les deux salles. Fait que moi, je travaille souvent au Théâtre La Licorne à Montréal. Puis on dirait que c'est comme La Licorne, mais juste en banlieue de l'autre côté de Laval, à Boisbriand. Fait que c'est une belle salle de 180 places à peu près. Puis les quatre fondateurs jouent dedans, puis eux, c'est des vrais couples dans la vie. Fait que ça sert bien la chimie des couples de voisins, parce que je leur ai fait jouer réellement leurs couples respectifs.
C'est drôle. Mathieu, le comédien, Mathieu, le dramaturge, Mathieu, le metteur en scène, un homme à tout faire, quoi. Hein? Mais tu joues pas dans la pièce.
Non, là, je joue pas dans la pièce, mais... Mais moi, je suis comédien à la base et de formation, puis j'aime ça jouer. Hein. J'ai été en tournée cet hiver avec deux femmes en or du Théâtre de la Manufacture. J'ai joué dans Le Songe d'une nuit d'été au Rideau Vert. Mais ça va faire bientôt 10 ans que j'écris des pièces puis que je les mets en scène. J'ai toujours écrit quand j'étais au conservatoire dans dramatique aussi. J'ai toujours essayé de développer des scénarios. Donc maintenant, c'est rendu ça que je fais, qui occupe la plupart de mon temps. Puis je suis producteur aussi de mes shows. Dans ce cas-ci, c'est le Petit Théâtre du Nord. Fait que j'ai pas eu à prendre en charge la production, mais je suis producteur aussi de mes shows. J'ai une pièce qui s'en vient au Théâtre de la Licorne qui s'appelle Trip, avec 14 comédiens. Fait que je suis là-dedans, là. Ça s'en vient dans la première et dans un mois et demi.
Ouais.
Fait que je suis beaucoup dans la production aussi. Je porte plusieurs chapeaux.
Mais te reposes-tu un peu dans ta cour de temps en temps, avec la clôture toujours? Ouais.
Là, je travaille à la maison, là. Je te parle de la maison. J'étais en train de travailler sur la production de Trip, justement. Puis j'ai une petite piscine, moi. Je vais aller en profiter tantôt parce que c'est la canicule.
Oui, il fait chaud, effectivement.
Il fait très chaud.
J'ai pas vu la pièce, mais tu sais, je lisais puis je regardais tout ce contexte-là, puis je me disais, il me semble que des chicanes de voisins, on en voit pas mal, à petite échelle, mais à grande échelle aussi. Je sais pas si on peut tracer des parallèles là, avec certains gros chicanes.
Bien, le parallèle, oui, moi je le vois. Je l'évoque légèrement dans le texte là, par rapport au conflit entre Israël puis...
La Palestine.
La Palestine, et puis aussi entre la Russie et l'Ukraine. C'est qu'en fait, les gens se parlent pas. C'est souvent ça, les chicanes de voisins. C'est que, il s'est passé quelque chose, on n'est pas content, mais finalement, on s'assoit pas et on se parle pas comme des adultes. Là. C'est vraiment ça qui se parle, en fait. Ça va faire 3 ans que la guerre dure en Ukraine. Ils se sont toujours pas assez à table de négociation. C'est que c'est ça le problème, c'est un problème de communication. Hein,
tout simplement. Les inviter à voir ta pièce peut-être pour voir à quel point ça peut être ridicule de ne pas se parler.
Ben, en fait, ce qui est drôle, on n'a pas parlé encore, mais moi dans la pièce, il y a comme théâtre, dans le sens que c'est un processus d'art-thérapie de la part des voisins, parce qu'on comprend qu'ils se sont rendus en cours, puis qu'ils se poursuivent pour plusieurs milliers de dollars, tu sais, puis ils ont même eu des événements un peu traumatisants où est-ce qu'il y a eu des blessures.
Ouais.
Puis le juge leur dit « Hey, ça n'a pas de bon sens de vous ruiner en frais d'avocat en cour municipale. Vous allez régler ce litige-là par l'intermédiaire de l'art-thérapie. » Donc, nous, ce qu'on voit, la pièce que j'ai écrite, c'est les voisins qui nous présentent le fruit de leur... processus d'art-thérapie. Donc, c'est très drôle. Fait qu'ils nous l'expliquent au début qu'ils n'ont jamais fait de théâtre, puis qu'ils vont faire une reconstitution de leur histoire à des fins thérapeutiques. Genre, fait que c'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire. C'est non seulement qu'on revit avec eux leur histoire, leur amitié, puis finalement leur conflit entre voisins, mais c'est qu'on c'est un peu des amateurs qui jouent, puis ils font plein de gaffes, puis il y a de la bisbille sur scène parce qu'ils sont toujours en conflit un peu. Fait qu'ils il y a comme une espèce de chamaillage sur scène. Ils s'entendent pas sur les déplacements. Il y a un deuxième degré qui est très, très drôle. T'sais, ils ont loué un sous-sol de l'église. L'action se passe dans un sous-sol d'église qu'ils ont loué afin de nous présenter leur affaire. C'est eux qui ont fabriqué leur petit décor, leurs accessoires.
Oh non,
fait que c'est ça qui est drôle dans la pièce.
Écoute, je t'entends parler, puis je te revois faire le théâtre dans le théâtre dans Songe d'une nuit d'été au théâtre du Rideau
Vert. Oui. Ben c'est, oui. Mais moi, je suis un gros fan du théâtre dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre.
C'est tordu, mais je pense que c'est Mathieu Quesnel. C'est comme ça qu'on te connaît puis qu'on t'aime, Mathieu.
Ouais. Ah,
ben, merci beaucoup d'avoir participé. Quelques détails quand même. On l'a mentionné, ça se passe au Théâtre du Petit Nord, donc à Boisbriand, c'est ça?
Au Petit Théâtre du Nord, ouais, Petit Théâtre. À Boisbriand. Oui, c'est à peu près à 20 minutes de Montréal seulement. Ça vaut le détour. C'est très drôle puis c'est vraiment un beau lieu, le théâtre là-bas.
Puis ça joue donc jusqu'au 23 août. Les billets, on peut les acheter en ligne.
Oui, il en reste encore. Il y a quelques dates de sold out, mais je pense qu'ils ont vendu des supplémentaires.
Bon, on vérifie tout ça. Merci beaucoup, Mathieu Quesnel.
Merci beaucoup.
À la prochaine. Bye-bye.
Okay. Que j'ai compris. Si tu n'existes plus.
C'était la chanson « Si c'était à refaire » d'Alexandra Moreno.
Axia Service, un demi-siècle d'inclusion par Elisabeth Pouliot, paru le 10 juillet sur mediamontréal.com. Axia Service est une entreprise adaptée, dédiée à l'intégration des personnes vivant avec des limitations. Célèbre donc ses 50 ans d'existence. Portrait de cette organisation d'économie sociale qui vise à participer chaque jour au dépassement de soi de ses employés. C'est en réponse au mouvement de désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques que Simone Charbonneau, dirigeant à l'époque un foyer d'accueil, décide de fonder les services adaptés Le Transit, l'ancêtre d'Axia Service, dans les années 1970. Elle a en effet l'idée de faire travailler les personnes vivant avec un trouble de santé mentale ou une déficience intellectuelle pour les aider à s'épanouir et à contribuer à la société, relate Pauline Picotin, directrice générale d'Axia Service depuis 3 ans. L'emballage devient la première activité de l'entreprise qui expérimente par la suite la fabrication de meubles, la commercialisation de confitures ou encore la torréfaction de café. Un conseil d'administration est rapidement formé pour structurer l'organisation. Au départ, l'entreprise compte d'abord une quarantaine d'employés, puis passe à une centaine dans les années 80-90. Et en 2018, le nombre d'effectifs augmente sans cesse. Aujourd'hui, ben, Access Service, dont le nom et l'image de marque sont du même souffle repensé, emploie 650 personnes. Si au début, la compagnie se spécialisait dans l'emballage de journaux et de livres, elle se consacre aujourd'hui dans ce domaine à la sous-traitance alimentaire. Donc on parle d'ensachage de produits secs et industriels, emballage de bouteilles, co-packing qu'on appelle. 2 usines à Laval et une autre à Langelier emploient chacune une centaine de personnes. L'entretien ménager s'est ajouté à son offre au début des années 80, et puis le service de sécurité, quant à lui, apparaît à la fin de cette décennie, proposant du gardiennage de bâtiments et de patrouilles de ville. Au fil des décennies, l'entreprise rencontre de nouveaux défis. Les récessions des années 80 mettent l'organisation à l'épreuve avec des pertes d'emplois et des périodes déficitaires, notamment dans le secteur de l'emballage. Un incendie cause aussi d'importants dégâts à la même époque. La mission de l'entreprise d'économie sociale est demeurée la même au fil des ans, soit l'intégration des personnes vivant avec des limitations. Environ 54 % des employés d'Axia ont un diagnostic de troubles de santé mentale. Environ 15 % présentent une déficience physique et un autre 15 % une déficience intellectuelle. On y retrouve aussi des personnes autistes et d'autres avec des troubles de l'audition. Cette diversité de limitations exige des adaptations spécifiques. Les horaires de travail sont modulés selon la capacité de chacun, évitant ainsi des impacts négatifs sur la santé. Sur le plan physique, les postes sont ajustables, comme avec la hauteur des tables ou de l'ajout de chaises ou un éclairage approprié ou un tapis au sol. Pour aider à la compréhension des tâches, l'employeur utilise des pictogrammes particulièrement pratiques pour les personnes qui éprouvent des difficultés cognitives. Les employés d'Axia manifestent un fort sentiment d'appartenance à l'entreprise et attendent, paraît-il, avec impatience les célébrations du 50e anniversaire. Pour célébrer, donc, l'entreprise organise une soirée découverte dédiée à ses employés qui mettra en valeur leurs talents à travers un spectacle. Ce dernier mettra en scène une vingtaine d'artistes internes et une exposition d'œuvres artistiques qui sera présentée. Intitulé « Retour dans le temps », la soirée mettra également en lumière les grandes étapes de l'évolution de la compagnie au fil des années. Interrogée en conclusion sur ses rêves pour le 60e anniversaire de l'entreprise, la directrice générale évoque le souhait qu'Axia Service continue d'être reconnue pour son triple rôle, celui d'entreprise adaptée, d'acteur de l'économie sociale et de partenaire d'affaires pour ses clients.
Pourquoi t'inquiète mon silence? Crois-moi, tu n'as plus de recours que prendre ton mal en patience. L'amour ne dure pas toujours. Tu te jouais de moi, je pense, quand je croyais t'aimer d'amour. Aujourd'hui change la balance. L'amour ne dure pas toujours. Tu as été mon espérance.
Salomé Leclerc et Cédric Saint-Onge qui chantaient « L'amour ne dure pas toujours ».
Oui, alors juste pour dire aussi, on a peut-être un petit peu de temps pour rappeler que Québec s'apprête à adopter un nouveau projet de loi qui va réduire le nombre d'audiences du bureau d'audience sur les projets, l'environnement, là, sur la protection de l'environnement, notamment des projets de développement de l'électricité, de lignes électriques, de centrales électriques. Et bon, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui contestent ça. Mais c'est quand même, ça s'inscrit dans ce projet, en fait, cette loi, la loi C5 au Canada et la loi 5 en Ontario, où on veut accélérer des projets de développement de l'énergie, de l'économie, pour contrer un peu ces menaces. En fait, c'est pas juste des menaces, là, mais la hausse là, des charges tarifaires des États-Unis, des douanes, donc du président Trump, et qui fait que certaines entreprises vont trouver le temps plus long. Donc, on essaie de développer d'autres façons de faire du partenariat économique, ne serait-ce qu'à l'intérieur même du Canada, mais même avec d'autres pays du monde. Et ce genre de projets-là, ben, sont importants, mais en même temps, ben, les gouvernements essaient d'accélérer les choses. Et il y a de l'opposition, notamment des groupes écologiques et environnementaux, et aussi de plusieurs Premières Nations qui ne veulent faire respecter leurs droits, et leurs droits ancestraux aussi, sur les terres convoitées où il va se passer ce genre de développement, si ça va de l'avant. Je vous rappelle qu'il y a des veilles d'orages violents aujourd'hui dans tout le sud du Québec et même un peu vers l'est aussi, et aussi en Ontario, parce que là, il y a un changement de température qui se prépare, et donc on peut s'assurer que il y aura un peu d'action dans le ciel dans les prochaines heures. Soyez prudents, s'il vous plaît. Merci à toute l'équipe qui travaille à cette émission, notamment Mathieu Tessier qui fait notre mise en onde. Et on remercie aussi Hélène Denis qui est en vacances, mais qui avait quand même travaillé un peu à la préparation de cette semaine pour moi et moi-même, Denis-Martin Chabot. On se retrouve lundi. Bon week-end tout le monde.